Alors l'an passé, j'ai parlé de Léonard de Vinci, sa vie et son travail en tant qu'ingénieur. Cette année, on va essayer de voir ce qui se passe autour de sa vie de scientifique. Disons, il a eu vraiment beaucoup de vie, cet homme. Il va donc falloir, dans un premier temps, appréhender ce qu'était la science en 1450 et la distinguer des techniques. Alors, pour faire le lien entre les deux parties, encore que ce n'est pas vraiment une deuxième partie, c'est quand même indépendant. L'an dernier, je vous avais parlé, à un moment donné, qu'on était en train de construire le pont de Léonard de Vinci sur le Bosphore, à Istanbul, et à la vraie dimension qu'il avait prévue, 280 mètres de long, 8 mètres de large, 24 mètres au-dessus de la mer. Cette année, une petite autre nouveauté, c'est à partir de ces dessins. Il faut que je remonte le son là-bas. À partir de ces dessins, donc, un instrument de musique a été recréé. C'était nettement mieux chez moi. Bien, alors je vais arrêter parce que le son n'est pas d'une qualité suffisante pour que vous appréciez. Ça vient de se passer en Pologne, une nouvelle de l'AFP donc, où un pianiste et facteur de piano, ça ne doit pas s'appeler comme ça, polonais, a fabriqué la viola organista que Léonard de Vinci avait dessinée et fait beaucoup d'ailleurs de textes autour. Le musicien l'expliquait après. Alors ça ressemble plutôt à une viole de gamme comme musique. D'ailleurs, les morceaux qu'il jouait étaient issus de cet instrument. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication parce que j'avoue ne pas y avoir trop compris, mais ce qui est extraordinaire, ce que je veux montrer, c'est que sans arrêt on repioche dans Léonard pour créer de nouvelles choses. Bien, je vais passer plus au cœur du sujet. Revenons à la science, donc, et disons-le d'emblée, en 1450, la science n'existait pas, en tout cas sous ce qu'on entend derrière ce mot. Bon, on l'appelait philosophie naturelle en général. Ensuite, je pense que vous avez compris à partir du titre de la conférence, Léonard de Vinci, précurseur de la science moderne, que je voulais parler des sciences exactes, celles qu'on enseigne, disons, dans les facultés des sciences, et pas aller vers les sciences humaines ou d'autres formes scientifiques. Surtout, disons, ce qui est autour des sciences naturelles, de la physique et des mathématiques. Donc notre problème est de savoir ce qu'était la science à cette époque. Nous sommes au moment de la transition entre le Moyen-Âge, où on enseigne, où existe exactement ce qu'on appelle la philosophie naturelle antique, qui a été aménagée au Moyen-Âge pour satisfaire les théologiens, et la pensée, deuxième part, donc cette transition avec la pensée scientifique moderne. Les notions de philosophie et de science s'appuient sur les savants grecs. Ces savoirs sont en fait neufs parce qu'après l'effondrement de l'Empire romain, tous ces travaux ont été oubliés, je parle en tout cas à l'Occident de l'Europe, et ils vont revenir peu à peu à travers des manuscrits grecs retrouvés, à travers des traductions depuis ce qu'avaient récupéré les Arabes par rapport à ces manuscrits grecs. Et peu à peu, donc, à partir du XIIIe, on va retrouver des éléments qui vont se structurer. En même temps, pour la chrétienté qui domine dans nos contrées, eh bien, on va essayer de lier les deux livres, finalement, la Bible et le livre de la nature, qui sont toutes les deux des œuvres de Dieu. Cette fusion aura forcément un revers, tout démenti scientifique sera perçu comme hérétique. Dans la science du milieu du XVe, on est encore dans l'esprit du Moyen-Âge, c'est-à-dire que les connaissances sont nombreuses. Mais, par exemple, en astronomie, c'est réellement le cas, mais dans les autres domaines aussi, il y a beaucoup de choses. Mais la méthode de fabrication de la science n'existe pas. Il n'y a pas de méthode scientifique. Dans ces années clés, autour de 1450, c'est le moment où naît Léonard, il est né en 1452, il y a des grandes inventions. L'une est l'imprimerie, c'est-à-dire la reproduction de textes grâce à des caractères mobiles. La seconde, c'est la gravure, reproduction d'images par impression. Une gravure qui va être beaucoup plus fine que ce qu'on connaissait avant avec le bois, la xylographie. Et cette fois-ci, on va utiliser donc des métaux pour faire des gravures de bonne qualité. Alors, ça va avoir un intérêt, d'abord pour la religion, qui va surtout être la production de Bible pendant 50 ans, ça va surtout être ça, mais déjà, il y a des productions scientifiques que l'on va rencontrer, et ça va permettre à ce que les gens qui s'intéressent à ça puissent lire les textes, lire le même texte, parce que l'un des gros problèmes du manuscrit, c'est que les copistes faisaient varier les textes, et donc, à partir du moment où ils ont le même texte, on peut comparer, on peut se référer à une page, on peut se référer à des dessins qui sont aussi de bonne qualité. Donc on va avoir du nouveau de ce côté-là, les grandes découvertes qui vont repousser les limites de la géographie de l'époque, la flore et la faune vont entraîner un attrait pour ce qui est la biologie, disons aujourd'hui, et puis on va avoir aussi la construction navale, la cartographie, l'astronomie, l'art de la navigation qui font des progrès tout à fait considérables à cette époque. Léonard, lui, participe un peu dans ce domaine à la conquête de l'espace intérieur puisqu'il va monter, escalader des montagnes. Les montagnes étaient hors du champ des hommes du Moyen-Âge qui en avaient très peur. Là, on commence à s'intéresser beaucoup plus à ce genre de zone inhabitée, bien sûr. Alors, on va commencer par les relations entre les sciences et les techniques. Alors, je vais partir... Aïe, j'ai oublié de faire passer celle-là. Alors, je vais partir d'une exposition universelle de 1933 à Chicago. 1933, c'est l'arrivée d'Hitler en Allemagne. C'est aussi une exposition qui s'extasie sur le progrès. Et quand on voit la devise de cette foire, c'est pas une foire d'ailleurs, c'est une exposition, la science trouve, l'industrie applique et l'homme suit, c'est tout à fait intéressant. Aujourd'hui, cette formule apparaît plutôt comme une provocation, je dirais, relative à l'acceptabilité sociale des sciences. Néanmoins, les deux premières propositions, la science trouve et l'industrie applique, ou la science trouve et la technique applique, ou bien la science trouve et il y a la science appliquée derrière, sont des choses qui sont bien ancrées aujourd'hui dans les têtes. Or, on peut dire que depuis plus d'un demi-siècle, ce n'est plus du tout le système de fonctionnement de la science, ni de la technique. Autour des grands projets, à chaque fois, on fusionne les deux domaines, la science et la technique, pour aller vers un but. On le voit très bien dans l'informatique aujourd'hui. Ça a été une invention sur une base théorique scientifique. Ensuite, on en a fait une machine. Et à partir de cette machine, on produit du savoir. Donc, on n'est plus dans ce domaine où il y a une déclinaison sans ces techniques. Elle a d'ailleurs été très brève. Pour l'électricité, ça ne peut pas être avant le 19e siècle, mais prenons un exemple peut-être plus parlant, la machine à vapeur. Je parle de la machine, je ne parle pas de la locomotive. La machine à vapeur a été inventée au début du 18e pour extraire l'eau dans les mines. Il y avait des noriades, enfin des noriades, c'est pas le mot, des quantités invraisemblables d'animaux qui tournaient en haut pour remonter l'eau, et donc il fallait à tout prix trouver une solution, et on a fini par trouver un système avec la machine à vapeur, 1705-1712, Savry et Newcomen vont trouver des systèmes qui vont fonctionner plutôt mal que bien. On voit à Orléans, on a l'inexplosif, donc au 19e ça explosait déjà, mais je vous raconte pas au 18e ces machines, les désastres que ça donnait. Néanmoins, à la fin du 18e, Watt arrive à avec différents brevets, c'est un spécialiste du brevet, arrive à faire mieux fonctionner ces machines, et elles vont finir par faire, à être portées sur le rail, sur les locomotives, et c'est un système qui va devenir peu à peu performant. Néanmoins, si on regarde un peu, c'est quelle science ? C'est la thermodynamique. J'ai dit que ça commençait vers 1700. Au moment où est fondée finalement la thermodynamique, ça dit Carnot, c'est 1824. Fondée, ça veut dire qu'elle ne va pas être effective. Donc on est encore dans une période où ce n'est pas la science qui précède. Hein ? C'est bien la technique qui va induire la science. Et je ne parle donc pas avant, parce que si on regarde la maîtrise du feu, la taille des silex, l'invention de l'agriculture, l'élevage, la céramique, la construction, la science n'y connaissait pas quand l'homme a inventé toutes ces choses-là. Donc, à ce moment-là, ce sont uniquement des savoirs artisanaux traditionnels qui se mettent en place. Donc, je voulais un peu différencier les deux, montrer que la science n'est pas du tout quelque chose qui a servi à tout faire. Bien au contraire, c'est très tardif le moment où elle fonctionne parfaitement. Disons à partir de 1850, avant pour l'optique, ça va dépendre des disciplines, mais c'est quelque chose qui s'est énormément appuyé sur la technique. Regardons rien que l'astronomie, lorsque Galilée réussit à commencer à comprendre ce fonctionnement du système solaire, pour ne pas aller plus loin, c'est parce qu'il y a l'invention de la lunette. Léonard essaie de comprendre, il n'a pas la lunette astronomique, il ne comprend pas ce que comprendra Galilée un siècle plus tard. Donc, faisons toujours attention à ce rapport. Je vais maintenant m'en éloigner un peu. Alors, la science à ce moment-là, je parle toujours vers 1450-1500, n'a pas d'institution, pas de langage propre. Pas d'institution, on les créera aussi à partir du 17e, d'abord en Italie, c'est là-bas que ça partira, je ne sais plus le nom en italien, mais c'est l'Académie du Lynx en français, qui est créée à Rome vers 1606. Haute institution après la Royal Society à Londres, et puis en France, 1645 pour l'Académie de médecine. Donc, c'est bien après aussi. Donc, on n'a aucun système pour fonctionner en science. Bien sûr, les universités ont commencé à fonctionner. Elles sont tout de même sous la coupe de l'Église. Néanmoins, on commence vraiment à étudier au Moyen-Âge des tas de phénomènes autour de la science, disons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, on va en venir enfin à notre sujet, à Léonard de Vinci. Alors lui, on l'a vu, c'est un peintre. Tout le monde en est absolument convaincu, malgré l'ensemble des choses qu'il va toucher autour de la peinture. Alors c'est un peintre, il a eu une formation de peintre, même si dans la Bottega, il a reçu beaucoup d'éléments en dehors de ce qui est stricto sensu la peinture, et ça va lui servir. D'ailleurs, il y a des aspects techniques énormes dans la peinture, et il va s'appuyer là-dessus, et il va encore aller plus loin, parce qu'il est terriblement curieux, donc il va faire des digressions, il va revenir à sa peinture, mais il continuera quand même à approfondir, malgré qu'il arrive à une certaine perfection par rapport, par exemple, à l'anatomie. Alors, il va utiliser des outils. Le premier, c'est l'observation. C'est un observateur rigoureux. C'est une méthode en général, il l'emploie de manière rationnelle pour, disons, traduire ce qu'il voyait. Et il a la chance d'avoir un coup de crayon extraordinaire, donc il va énormément dessiner avec précision et harmonie. Et on va voir souvent dans des analyses qu'il aura pu faire sur des phénomènes extrêmement rapides comme les tourbillons de l'eau ou des choses comme ça, il va faire des dessins tout à fait d'une précision incroyable, de choses que le commun des mortels n'arrive même pas à voir. Donc ça va être ses outils. Et puis une autre, je vais parler de rigueur mathématique, on pourrait parler de logique. Il essaie d'avoir une pensée rationnelle, disons. Ça va être ça, la base de sa démarche dans à peu près tout ce qu'il fera comme recherche. Alors, il va rompre avec les traditions savantes de son temps, qui s'appuyaient sur les savoirs livresques. Sur les savoirs livresques des anciens, qui ne pouvaient se tromper. il va les contredire. Ainsi, en géologie, je reviendrai dessus, il ne pense pas que les fossiles que l'on trouve seraient le reliquat du déluge, mais la preuve que la Terre est soumise à des variations continuelles. C'est dans l'anatomie qu'il va donner toute la mesure de son talent d'observateur, puisqu'il a pratiqué des dissections animales et qu'il a disséqué des cadavres humains. Je vais lire une phrase sur ses motivations à Léonard. J'ai imaginé toutes ces machines parce que j'étais possédé, comme tous les hommes de mon temps, par une volonté de puissance. J'ai voulu dompter le monde, mais j'ai voulu aussi passionnément connaître et comprendre la nature humaine, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos corps. Pour cela, des nuits entières, j'ai disséqué des cadavres, bravant ainsi l'interdiction du pape. Rien ne me rebutait. Tout pour moi était sujet d'étude. La lumière, par exemple. Pour le peintre que j'étais, que de recherches passionnantes. Ce que j'ai cherché finalement, à travers tous mes travaux et particulièrement à travers ma peinture, ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est à comprendre le mystère de la nature humaine. Alors, on va voir un peu, d'abord, par rapport aux mathématiques, ce qu'il a fait. J'ai dit qu'il voulait employer une méthode mathématique, on verra qu'il va s'y référer en parole, en tout cas en permanence, et qu'il va essayer vraiment d'approfondir. Les mathématiques, j'ai montré en haut à gauche une gravure, j'avais déjà montré l'an dernier, c'est Miss Arithmétique qui a d'un côté... Alors ici on a Boès avec des chiffres arabes et ici on a Pythagore avec les abacs, une abac sur laquelle il compte. Donc c'est un grand débat, on va voir qui va prendre pratiquement... un millénaire à arriver, donc on n'a pas fini d'en parler. La bacque romaine est ici, elle est en bronze, c'est des jetons que l'on pousse, le boulier chinois en dérive, les Chinois, paraît-il, s'en servent toujours et arrivent à de bons résultats. Alors, j'ai parlé de Léonard et de l'école des abacs, là-haut, où il a été élève vers 10-11 ans, on n'a pas de grande précision là-dessus. Il y avait dedans surtout un apprentissage, on dirait, d'arithmétique de base. On dit école des abacs, mais en fait, ça serait école de calcul ou d'arithmétique, le nom, une traduction plus pertinente, disons. Et il a passé donc sans doute 2-3 ans à apprendre les bases des calculs. Alors, qui étaient les maîtres des mathématiques à cette époque ? Eh bien, ce sont des noms de mathématiciens grecs, des noms de théorèmes pour nous, souvenez-vous, Thalès, ah bon, on ne le voit pas, hein. Il y a Thalès ici, Pythagore, ah, il manque les noms, c'est un peu embêtant, bon, on va quand même s'en tirer comme ça. En bas, c'est Euclide. Alors, Thalès et Pythagore, ce sont deux faiseurs de théorèmes hein, qui nous ont fait suer quand on était vers la quatrième, Thalès avec des proportions, Pythagore avec son triangle. Donc leurs noms sont très célèbres pour tous les écoliers. Et en bas, Euclide d'Alexandrie est peut-être un peu moins célèbre, mais c'est bien la géométrie euclidienne qu'on a appris, qu'on continue d'apprendre encore aujourd'hui. Donc c'est cet homme d'Alexandrie qui a rédigé des traités sur la géométrie qui sont toujours d'actualité. J'ai mis d'autres noms, Diophante d'Alexandrie, je vais déclencher celui-là, et Archimède de Syracuse. Archimède était un très grand mathématicien, il est plus connu comme mécanicien, mais c'était aussi un très grand mathématicien. Alors, on peut ajouter le persan Al-Khwarazmi, qui a été un peu le père de l'algèbre. Dans le passé, c'est la géométrie, on va y revenir, c'est l'élément fondamental. Alors, au Moyen-Âge, on utilise toujours les chiffres romains. Alors, c'est pas facile de calculer avec ces engins-là, vous voyez. Le premier, encore 22, ça va, 10 plus 10 plus 2. Mais là, c'est quand même 51 et 5. Il faut le soustraire. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple à lire, mais on y arrive. Mais quand on calcule, ça devient diaboliquement compliqué. C'est pour ça qu'il y a bien les abacs qui permettent le fonctionnement. Alors, en bas, c'est le chiffre le plus long, ai-je lu. Donc, vous voyez, 4888, c'est quand même très impressionnant. Puis après, à partir de 5000, il mettait un trait au-dessus. Dans ce que j'ai lu, on met aussi des astérix. Je pense que c'est plus récent, on mettait sans doute pas d'astérix à cette époque-là. Voilà donc des formes de calcul avec les chiffres romains qui sont bien curieuses pour nous. Alors heureusement, le premier pape français, Gerbert d'Aurillac, pape de 999 à 2003, était un très grand savant. J'ai dit 2000, oui, ça aurait fait un peu long. 1003. C'était un très grand savant né en Auvergne. Et il partit en Espagne pour se former et il rencontra à cet endroit les mathématiques et l'astronomie que les Arabes avaient ramené dans leur bagage. Alors, il était en fait en Catalogne et pas du côté musulman. Néanmoins, il apprit ces fameux chiffres arabes, qui sont en fait hindous. Les Arabes, au contact des hindous, avaient acquis ce genre de chiffres, ce qu'on va appeler finalement assez vite la numération décimale de position. J'irai un peu plus loin tout à l'heure là-dessus. Celle qu'aujourd'hui nous employons. Et il va tenter d'introduire cette numération des chiffres indo-arabes en Occident. Alors là, j'avais prévu que ma femme normalement lise un texte, et celui-là, on l'a oublié, c'est pas le bon que je t'ai donné. Enfin, tu le liras à la fin, mais il y a un problème, donc je vais le lire. Alors, voilà ce que nous dit dans Compter avec les cailloux un Suisse qui s'appelle Alain Charling, le calcul élémentaire sur Abaque chez les anciens Grecs, et il parle de notre pape. Alors je vous lis donc ce texte. La seule nouveauté que Gerbert s'est permis serait l'introduction des 9 chiffres arabes, sans le dixième, le zéro, sur les jetons. Il les écrit sur les jetons qui servent dans les abacs. Ce serait par ce biais que ces chiffres se seraient répandus de ce côté-ci des Pyrénées, mais très discrètement. La grande masse de la population est restée très longtemps attachée aux chiffres romains, avec pour conséquence la nécessité de recourir à l'abac à jetons. Cela a duré jusqu'au XVIIIe siècle. C'est la Révolution française qui interdit le calcul avec les chiffres romains. Il y a surtout la confrérie des mathématiciens avec leurs chiffres romains qu'ils arrivaient quand même à maîtriser, qui ne tenait pas du tout à ce qu'il y ait un système plus simple qui se mette en place et que tout le monde comprenne. Et ça va durer. Alors le titre de chancelier de l'échiquier, par exemple, en Angleterre, qui existe toujours, c'est lié à ces calculs d'abac, où il y avait, soi-disant, ce que j'en ai lu en tout cas, sur la table où on décidait des éléments sur les impôts, un grand tapis qui permettait de calculer, et donc ça a été le chancelier de l'échiquier qui était un système, échiquier, oui, qui était un système d'abac. Alors, cette même population, inspirée aussi par l'Église, se méfiait terriblement des nouveaux chiffres. Et plutôt d'ailleurs, on avait déjà eu un problème à Florence, où la ville de Florence interdit aux banquiers de calculer avec ces nouveaux chiffres. Démoniaque, évidemment. À tel point que Gerbert, alias Sylvestre II, malgré son ascension à la papauté, a été suspecté de sorcellerie pendant de nombreux siècles. Heureusement, après sa mort, car de son vivant, ça aurait pu lui valoir des ennuis définitifs. On trouve encore en 1833, Michelet mentionne dans son Histoire de France le marché qu'aurait passé Gerbert avec le diable au cours de son séjour en Espagne chez les musulmans, alors qu'il n'a séjourné, comme je l'ai indiqué, qu'en Espagne chrétienne. Voilà donc quelques éléments sur Gerbert. Il y a encore eu des tas de problèmes parce qu'en 1648, eh bien, la basilique Saint-Jean de Latran, dans laquelle il y avait son tombeau, où il y avait des tas d'histoires bon, que j'entends pas, mais on a été l'ouvrir pour vérifier qu'il était toujours là et qu'il n'était pas parti avec le diable donc à cette époque. Donc c'est toute une histoire complètement abracadabras. Voilà pour notre pape, mais ça ne marche pas terrible. Heureusement, on va avoir un autre Italien, Bonacci, qui lui va réussir son coup. Alors qui est ce Leonardo de Pise ? C'est le fils d'un administrateur de la ville, commerçant, grand voyageur, il a parcouru l'Europe, et peu à peu, il s'est imprégné des mathématiques de son époque, inspiré des mondes grecs, indiens, arabes. Son Liber Abaci, le livre de calcul, ils s'appellent un peu tous Liber Abaci dans cette période, les livres, c'est un peu compliqué quand on cherche autour de ça. Il est publié en 1202 et il est consacré surtout aux calculs commerciaux. Calcul, comptabilité, moyen de juger de volume pour savoir ce qu'il y avait dedans, c'est réellement quelque chose qui est dans une république de marchands et qui est faite pour les marchands, l'arithmétique de l'époque. Alors, on va aussi les conversions de monnaie sont faites, donc c'est encore la même idée de toute façon. C'est bien des éléments de mathématiques pour les marchands. Alors, par rapport à ce Fibonacci, on peut remarquer deux choses. Il est toujours devant les calculs avec des abacs, mais lui qui a été beaucoup à l'étranger, il s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple avec les chiffres arabes. Donc, il va essayer d'introduire à nouveau en Europe, et cette fois-ci, ça va mieux marcher, malgré des problèmes, à nouveau ce calcul. On aura encore des problèmes, mais peu à peu, on va bien arriver à l'écriture décimale positionnelle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les chiffres arabes avec le zéro, qui est un problème fondamental, qu'il n'y avait pas dans les chiffres romains, les signes plus et moins, et le marqueur décimal, qui est la virgule. Donc on a à peu près quelque chose de structuré à ce moment-là. Néanmoins, comme je l'ai dit, ça va mettre un temps fou à arriver. Alors, ça va surtout permettre une chose, c'est qu'on n'a plus besoin des jetons. On va pouvoir travailler par écrit, faire des calculs par écrit, comme nous avons appris à les faire. Le seul problème, c'est qu'on n'écrit pas avec une plume, avec du papier, mais on écrit sur des ardoises, on met du sable dessus, ou de la poussière, et on peut écrire dessus, comme faisaient les anciens d'ailleurs. Alors, il est plus connu aujourd'hui, notre Fibonacci, pour sa suite. Alors, j'ai essayé d'un peu tout résumer. Bon, on voit à peu près ce qu'il faut. Il manque quelques lapins, mais c'est pas bien grave. Si, il manque quand même. Alors, il manque quand même un bout là-haut. C'est très compliqué, mais j'ai tout mis pour que vous puissiez voir. En fait, c'est pas compliqué du tout. Alors, voilà le problème qu'il veut résoudre. Il est écrit en haut, possédant au départ un couple de lapins. C'est facile ça, un couple. Combien, il y a combien là, aux deux couples de lapins, obtient-on en 12 mois si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du second mois de son existence. D'accord ? Bon, les robinets qui fuient et les baignoires, c'était bien pire à mon avis. Hein. Bon, alors on y va. Voilà notre couple. Ici, les rangs, c'est une suite. Hein. En mathématiques, on parle de rangs et de termes. Alors, ici, les rangs, c'est les mois. 1, 2, 3, c'est à peu près en face, pas tout à fait, mais presque. Alors ici, on a un couple. Admettons que ça soit janvier, c'est encore plus simple à comprendre. Ils sont pas bien grands, nos deux lapins, ils grandissent. Et puis là, ils passent là et ils ont un couple de lapins à nouveau, un garçon et une fille, et voilà. Alors, cette fois-ci, on a bien deux couples. Ensuite, ce couple fait un nouveau couple de lapins et les autres grandissent. On en a trois le quatrième mois, ok ? Ensuite, on va passer à cinq, puisque les deux couples adultes vont pouvoir faire des rejetons. Oui. Alors on arrive à 5 couples de lapins, c'est écrit là. Et puis après, ça va être 8. J'explique pas pourquoi, mais vous voyez un peu les perspectives. Ce n'est pas très compliqué. Si vous faites un petit devoir chez vous, vous y arriverez sans aucun mal. Alors, finalement, quand on regarde un peu ce système, on s'aperçoit que le terme qui est ici, par exemple le troisième, est la somme des deux premiers. 1 plus 1 égale 2, ça vous y arrivez ? Bon. Après, 1 plus 2 égale 3. 2 plus 3 égale 5. 5 plus 8 égale 13. Ça marche comme ça, si on ne peut plus simple, c'est une suite. Vous en connaissez une, c'est les entiers, qui, eux, partent de 1 et montent jusqu'à l'infini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est une suite et on continue. Hein. Ici, on a une autre suite. 1, 2, 3, 5, 8. Alors après, 13, si on va ici, par exemple, 144 plus 233, ça fait 377. D'accord ? Donc, c'est un système qui est assez simple à comprendre. Hein ? Ça va pour tout le monde ? Si vous accrochez, vous devez comprendre. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu d'une autre chose. Avec sa suite, Fibonacci, on s'est aperçu que si on divisait un terme par le précédent, en maths AN sur AN plus 1, eh bien on obtenait d'abord 1, puis 2 sur 1, ça fait 2. Et on continue, 3 sur 2, c'est 1,5, 1,50. Ensuite, 5 sur 3, c'est 1,6666. Et on continue. Et puis on s'est aperçu peu à peu qu'en bas, on se stabilisait vers une valeur qui est par là. C'est le nombre d'or. 1,61,80,33, etc., etc., etc. Un nombre irrationnel. Un nombre qui n'a pas de fin, on peut en trouver. Si on calcule tout ça, on arrivera à rien, on continuera. Ça, la formule est là, je ne la décris pas. Donc on s'aperçoit que c'est une méthode pour trouver ce fameux nombre d'or. La suite de Fibonacci, voilà pourquoi j'en ai parlé, parce que ça va revenir du côté de Léonard de Vinci, beaucoup plus au XXe siècle avec Le Corbusier, Paul Valéry, etc., Zenakis en musique, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé à cette époque, vers 1200, une suite qui permettait des approximations vers le nombre d'or. C'est un élément assez curieux en mathématiques. J'en dis quand même deux mots sur ce qu'est ce nombre d'or. Léonard va participer à un ouvrage sur la proportion divine. Rassurez-vous, c'est exactement la même chose. Alors, voilà la définition d'Euclide. Le nombre d'or est défini, bon, etc. Une droite est dite coupée en extrême et moyenne raison quand, comme elle est tout entière relativement au plus grand segment, ainsi est le plus grand relativement au plus petit. Vous avez tout compris, j'espère. C'est un vrai problème, les mathématiques. Vous voyez que ça peut poser des problèmes. Heureusement, à notre époque, on est capable de traduire. Bon, c'est déjà une traduction d'Euclide. Alors, lorsqu'on décompose un objet en deux parties égales, c'est la droite, vous voyez ?
Inégale.
Excusez-moi. C'est la droite qui est là-haut, hein ? A plus B. Hein ? De là à là, on a un objet qui est composé d'une partie A et d'une partie B. On dit que la proportion est divine ou dorée si le rapport entre la grande partie et la petite, c'est-à-dire A sur B, est égal au rapport entre le tout A plus B et la grande partie. Je répète, si A sur B égale A plus B sur A, nous sommes dans le nombre d'or. Ok ? Il n'y aura pas d'interro après, ne vous inquiétez pas. Alors, Léonard, lui, il... Ah oui, je viens de dire une chose quand même, puisqu'on ne joue pas grand-chose. Si tu l'as trouvée, ça serait pas plus mal si elle est là. S'il faut aller la chercher, ça va éclairer. Alors, Léonard, il a dit une phrase quand même assez tôt, je crois que c'est vers 1485, qu'il ne me lise pas celui qui n'est pas mathématicien. Vous voyez, donc ça avait de l'importance pour lui. C'est un peu proche de « que nul n'entre ici s'il n'est géomètre hein », à l'académie, au fronton de l'Académie de Platon. Alors donc, on est dans un monde de mathématiciens et Léonard va rencontrer celui qu'il appellera plutôt Maestro Luca Pacioli, un grand mathématicien de cette époque, qui a enseigné dans plusieurs universités. Et là, vous le voyez, donc, il est très bien habillé. Vous voyez que sa robe est extraordinairement nette, etc. Ce Luca Pacioli, il a la main sur les éléments d'Euclide, ici. Et il est sur une ardoise où il y a à nouveau marqué Euclide, si vous n'y arrivez peut-être pas, mais moi je le vois d'ici. Et on voit qu'il y a un cercle et un triangle. Le cercle, c'est le ciel. Le triangle, la Sainte Trinité. On est dans c'est un religieux, il ne faut pas qu'on l'oublie. On voit d'autres formules, d'autres éléments de géométriques, et on va voir que Léonard les travaillera énormément. Une craie, une éponge, une équerre, un compas, un autre livre. J'arrive pas à lire d'ici, d'ailleurs, je ne m'en souviens plus. Ah, ça va aller mieux comme ça, pour lire mon texte. Vous ne l'avez pas dans l'œil ? Non. Alors, une autre caractéristique, ce Fra Luca Pacioli, donc, c'est d'être né à Borgo Sansepolcre et d'avoir été élève de Piero della Francesca. Ouais, je vous vois plus, autant je vous voyais, c'était mieux, mais là, je ne vois plus personne. Mais bon. Alors, c'est le moment où il vient, enfin, c'est le moment où il a terminé, une publication en Venise en 1484, son Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionali.
Proportionalita.
Lita. Ouais, j'ai pas compris la différence entre Proportionali et Proportionalita, alors c'est pour ça. Alors, ce livre, c'est une somme donc, et elle résume l'ensemble des connaissances mathématiques de l'époque, principalement en algèbre, ce qui est nouveau. Et dans ce texte, ce texte est connu, et Pacioli est connu encore aujourd'hui, parce que dedans, c'est la première fois qu'on trouve le nom de comptabilité en partie double. Les deux colonnes de la comptabilité, entrée-sortie, c'est là-dedans qu'on le trouve pour la première fois. Il est très probable qu'en fait, les marchands vénitiens l'utilisaient déjà et qu'il l'a repris. Mais c'est le texte fondamental et on le donne à Luca Pacioli. On dit aussi que les bons comptes font les bons amis, j'ai trouvé à plusieurs endroits, serait de lui. Oui. Alors, ils vont se lier d'amitié. Léonard veut vraiment apprendre les mathématiques, comme pour le latin, où il a vraiment sué dessus, il a fait des tas de pages comme un dictionnaire, disons, mettant les mots, alignant les mots de latin. Sur les mathématiques, il va aussi faire beaucoup de travaux. Il ne sera jamais un grand mathématicien, comme il ne sera jamais un grand latiniste, il n'ira jamais les anciens dans le texte, mais Léonard va quand même apprendre beaucoup de choses, et c'est auprès de Pacioli, que l'on va le retrouver. Il va travailler des années avec lui, et ensemble, ils vont faire un livre qui s'appellera, je n'ai pas là pour l'instant, La Divine Proportion, qui est publié en 1509 à Venise aussi, et dedans, c'est bien un travail sur ce genre de nombre, hein, ce nombre d'or, qu'on peut aussi appeler la divine proportion. Pacioli dit la divine proportion parce que ce nombre est associé à un idéal venu du ciel, qui va donc expliquer beaucoup de choses dans ce nombre. Voilà, ce que je peux en dire, je n'irai pas plus loin là-dessus. Il sera utilisé en art au XVIe siècle, j'ai dit beaucoup, non, assez peu finalement. Et chez Léonard, on ne trouve pas beaucoup d'éléments. Il y en a, mais très très peu finalement. Donc je l'ai déjà dit, c'est au XIXe, au XXe siècle qu'il ressort. Le Corbusier en fait un grand usage. Il crée le terme de modulor, qui signifie, donc c'est un mot valise formé de modules et de nombres d'or. Xenakis, j'ai déjà dit. Valéry, qui écrit sur Léonard et qui, dans son Cantique des colonnes, un poème sur les colonnes antiques, il y a un quatrain dans lequel il dit « Fille du nombre d'or, forte des lois du ciel, sur nous tombe et s'endort un dieu couleur de miel. » C'est tout à fait admirable. Tous ceux qui ont été en Grèce ou même en Italie d'ailleurs, au sud de Naples, je perds les noms en ce moment. Enfin, il y a pas mal d'endroits où il y a des temples qui sont baignés par la lumière et cette couleur de miel est tout à fait évidente. Voilà un dessin qui est dans le livre. Donc, ils sont faits par Léonard, c'est admirable. Là, ce sont des éléments qu'on trouve dans ses carnets. Donc il a fait tout un travail sur les volumes des solides, etc., des polyèdres. À la fin du livre, on trouve des caractères typographiques, les voilà ici, et le Metropolitan Museum a repris, son logo est là-haut, vous voyez, a repris là-dedans cette lettre. J'ai mis d'autres éléments, ça c'est l'ancien logo de ce musée. Donc on est sur quelque chose aussi où il y a des signes et ça vient de Léonard, en mathématiques. Alors, sans doute le dessin le plus connu du monde, il est sur la pièce de deux lire. Alors cet homme de Vitruve est donc en relation avec un architecte romain qui a écrit un traité De Architectura qui nous est parvenu par une seule copie, une seule, hein, sans les illustrations. La copie provient des îles britanniques et il a été rapporté par Alcuin à la cour de Charlemagne. Il n'a pas suscité d'intérêt sur le plan architectural au Moyen-Âge. Le style a été analysé, mais pas les éléments architecturaux. Et un peu avant que Léonard ne se mette à Nonnes, finalement, Alberti a utilisé cet ouvrage, les éléments de cet ouvrage. On a aussi eu Palladio qui s'est employé à utiliser des éléments venant de Vitruve, et Francesco di Giorgio Martini, dont j'ai déjà parlé, un très très grand savant de cette époque, un grand architecte, lui a fait la traduction de ce livre, et ce livre est dans la bibliothèque de notre ami Léonard, donc c'est quelque chose d'important pour lui. Alors, on trouve, Vitruve dit, jamais un bâtiment ne pourra être bien ordonné si toutes les parties ne sont, les unes par rapport aux autres, comme le sont celles du corps d'un homme bien formé. Liaison architecture, corps humain. Alors, Vitruve toujours, on passera à Léonard après. Mais Léonard fait ce travail à partir... J'ai un problème de micro, là ? Non. Léonard fait ce travail à partir des textes de Vitruve, bien sûr, même s'il les transforme. Alors, il explique qu'un homme aux bras et aux jambes écartés pouvait être inscrit dans des figures géométriques parfaites. J'en étais à l'homme de Vitruve. Alors, là-dessus, on arrive au dessin de Léonard. Et ce dessin, vous voyez, il y a au-dessus des écritures, toujours les mêmes, inversées, et en bas aussi. Et il écrit sur ce dessin au-dessus que la nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci. 4 doigts font une paume. 4 paumes font un pied. 6 paumes font une coudée. 4 coudées font la hauteur d'un homme. Et 4 coudées font un double pas. Et 24 paumes font un homme. Et il a utilisé ces mesures dans ses constructions. Donc, il fait référence aux mesures utilisées par les architectes ici. On trouve avec ces mesures d'ailleurs qu'on en est arrivé à 1m83 pour cet homme. C'est 24, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus, bon, c'est pas bien grave. 1m83 donc, mais il continue. Si tu écartes les jambes assez pour que ta hauteur diminue d'un 14e et que tu ouvres et lèves les bras de sorte que les médius, c'est les majeurs. Et on voit. Il écarte les jambes, donc il remonte, il va être moins grand. La tête est toujours est bloquée sur le carré, mais là on parle du cercle. Les médius touchent le bord du cercle. Alors que les médius sont aussi au niveau du sommet de la tête. Sache que le nombril se trouvera au milieu, entre les extrémités des membres écartés, et que les jambes écartées formeront deux des côtés d'un triangle équilatéral. Donc vous voyez toutes ces justifications mathématiques incroyables que met Léonard dans tout cela. Alors, on voit que l'homme est placé dans deux positions différentes. Hein. Il y a une tête commune, mais le reste, et le tronc aussi, mais les bras et les jambes bougent. Et on voit qu'il a inscrit dans un carré l'homme, disons, stable, celui qui est debout, bras horizontal, et qu'on touche les bords du carré. N'oubliez pas que Vitruve avait dit que le cercle et le carré avaient le même centre. Lui, pas. Il a changé tout. Il a mis le sexe de l'homme au centre du carré et le nombril, qui devait être pour les deux, au centre du cercle. D'accord ? C'est ça la construction tout à fait étonnante qui donne même une idée de mouvement. On pourrait croire qu'il est en train de faire de la gymnastique, hein, et de photos d'un homme en train de s'agiter. Alors, où veut-il en venir ? Souvenons-nous qu'il ne me lise pas celui qui n'est pas mathématicien. Il recherche une figure qui soit conforme à l'anatomie humaine et en même temps esthétique. Les proportions du corps s'appuient sur un schéma idéal. Mais aucun humain n'est conforme à ce schéma, à ce corps paradisiaque. Le paradis est d'ailleurs perdu, notre avenir c'est le vieillissement. Il essaie de concilier donc géométrie, cercle et carré, anatomie et esthétique en créant le mouvement. Notons aussi que le carré, c'est le symbole de la Terre, hein, avec air, terre, non, je ne sais plus, terre, air, feu, et l'eau. Il m'en manquait un. Je devrais noter ce que j'ai à dire. Et les quatre coins cardinaux aussi. Et le cercle, c'est le symbole du ciel, c'est la représentation de l'unité, la perfection, la voûte céleste. Il cherche à représenter l'homme comme une créature, disons terrestre, une créature de Dieu céleste, et à montrer par l'usage de la divine proportion que l'homme, créature de Dieu, est parfait. Voilà pour cet homme de Vitruve. J'ai mis un dessin de Dürer ici, vous voyez, il est un peu similaire, hein, il a un peu porté sur les mesures, cet Allemand. Donc c'est pas une lubie de Léonard. Et autre chose, on le trouve chez pas mal d'autres artistes, cette manière de vouloir repérer par des calculs le corps et beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses qui ne sont pas construites par l'homme, je voudrais dire. Alors, on va passer à la scène. Alors la scène, j'ai lu à certains endroits qu'on avait des proportions, j'ai vu ces proportions dessinées, je les ai redessinées et je ne les comprends pas très bien. Alors voilà où j'en suis par rapport à la scène. Je trouve qu'il y a une mathématisation extraordinaire dans la scène, mais pour moi ce n'est pas les proportions, ce n'est pas ces problèmes donc là, mais pas proportion d'or, mais c'est bien la perspective albertinienne qui elle est tout à fait évidente. On a vraiment derrière la tête du Christ l'arrivée de toutes ces lignes qui provoquent un rayonnement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors donc j'ai laissé, parce que je les avais tracés, je l'avais le dessin bien sûr, mais j'avais tracé, si des fois ça vous donne des idées, mais je ne vois pas comment on peut justifier vraiment ce quadrillage. Bon, j'ai pas percuté là-dessus. C'est pas bien grave. Alors, la Joconde. Je ne l'ai pas en mise en entier, on ne voit pas ses mains, etc. Parce que je viens de parler de perspective albertinienne. Donc Alberti, vers 1440, a mis au point la perspective. Elle était déjà utilisée par Brunelleschi dans le passé, mais sans mathématisation. Hein. Alors Léonard va critiquer Alberti. Il est un naturel, discute ailleurs, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il va en même temps faire des remarques. D'abord, c'est vrai que c'est à partir d'un point que la perspective albertinienne fonctionne. Or, on a deux yeux. Là, il ne s'est pas trompé, c'est sûr. Donc, ce n'est pas évident de vraiment voir la perspective. Il y a des petits décalages. Et puis, il y a d'autres choses qu'il va trouver. Il va dire l'éloignement des objets. Il y a des problèmes atmosphériques qui vont se poser avec ça. Il va aussi dire c'est moins net quand ça s'éloigne. Voilà un peu tout le travail que va faire Léonard sur cette perspective, et donc il va compléter nettement. Et sur cette Joconde, c'est assez visible. Il dit il y a trois sortes de perspectives. La première traite des lettres, des règles de dimension des choses qui s'éloignent de l'œil. Donc si vous vous mettez sur une voie ferrée, vérifiez qu'il n'y a pas de train. Et à ce moment-là, vous pouvez voir que les rails, on a l'impression qu'ils convergent. Et surtout, les traverses se réduisent. Un peu comme on l'a vu d'ailleurs dans le dessin précédent, où là-haut, on a nettement ce problème de perspective, cette poutre, disons, ça a l'air d'être autre chose, mais elle est beaucoup plus courte, plus elle s'éloigne, moins elles sont longues, or elles ont la même taille, incontestablement, dans le dessin. Donc, première chose, règle de diminution. Deuxième chose, la seconde comprend la manière d'atténuer les couleurs à mesure qu'elles s'éloignent de l'œil. Et il le dira dans son traité de peinture, on bleuit, ça bleuit, plus on s'éloigne, plus ça bleuit. Et là, c'est extrêmement net. Et la troisième et dernière s'emploie à expliquer comment les choses doivent être moins nettes proportionnellement à leur distance. Et là, on le voit aussi, on va pouvoir le rencontrer d'ailleurs sur d'autres tableaux. C'est un peu clair cette histoire de perspective, donc il met en place... Non, j'ai trop avancé. Alors, qu'en dire d'autre? Il faut quand même que j'avance. Alors, sur les mathématiques, globalement, remarquons aussi qu'il ne s'est intéressé qu'à la géométrie. Mais il n'est pas le seul. Les Grecs faisaient des calculs avec la géométrie. Il ne faut pas qu'on oublie ce phénomène. Hein. La gemme ne viendra qu'après. Et pendant encore très longtemps, on utilisera la géométrie surtout. Si on lit une fameuse phrase de Galilée, celle où il parle des mathématiques et qu'on reprend sans arrêt. La philosophie est écrite dans ce vaste livre, constamment ouvert devant mes yeux, je veux dire l'univers. Et l'on ne peut le comprendre si d'abord on apprend à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont le triangle et le cercle et autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Il est bien clair qu'il parle de géométrie, hein, il ne parle pas d'algèbre, et Galilée n'a jamais écrit une équation. Hein? Donc, voilà là-dessus. Alors, Léonard dit « Aucune certitude n'est possible si l'on ne peut y appliquer une des sciences mathématiques ou qui soit unie aux mathématiques, c'est à peu près la même chose. » Donc, il considérait les mathématiques pour elles-mêmes, mais aussi comme outil pour la création picturale, et on l'a bien vu à travers la Joconde qui est encore sous les yeux. Ce ne fut pas un grand mathématicien, sans doute à cause d'une formation initiale bien insuffisante, mais c'était une passion pour lui, elle lui promettait, comme il l'a écrit, la suprême certitude. Alors, on va passer à la géologie. Alors, je parle devant un géologue en plus, et j'y connais pas grand-chose. Tu reprends bien. Je disais à Claude avant le début, il devrait un jour nous parler de Léonard de Vinci et de la géologie, parce qu'il y a beaucoup de choses que je l'ai fait d'une manière assez brève, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Ce que je dis là, bon, ça va encore. Non, mais la géologie, c'est quelque chose de vraiment qui est passionnant et compliqué. Alors, on est à une époque où il y avait soit l'interprétation littérale de la Bible, soit la théorie matérialiste d'Aristote, selon laquelle les fossiles étaient le produit d'une force générative, disait-il, présente dans les roches elles-mêmes et activée par l'influence des étoiles. Ça ferait qu'il y ait des animaux, comme les coquillages qu'on trouve dans les roches, dans les roches sédimentaires surtout, je pense, uniquement. Non. Et à ce moment-là, ils pousseraient d'eux-mêmes, disons, en hauteur. Donc ce sont les deux théories qu'on a, le déluge d'une part, et la théorie d'Aristote, avec sa force générative, qui aurait mis dans ces roches des fossiles. Il va mener des recherches là-dessus. On sait qu'il est fasciné par les montagnes. J'ai remis le premier dessin qu'on a de lui, Sainte-Marie de la Mer, c'est dans l'endroit, pas loin de l'endroit de la neige, je veux dire, excusez-moi. Et dedans, on voit énormément de roches. Bon, la Toscane est assez montueuse, même si c'est souvent des collines. On voit donc des choses assez curieuses. Et dès ce moment-là, la montagne l'appelle. Alors, il va représenter énormément de zones montagneuses dans ses peintures, souvent à l'arrière-plan, bon. La Vénus au rocher qui est là, mais on l'a vu sur la Joconde. La Vierge, je veux dire, oui. Je fatigue, là. Alors, la Vierge, oui, la Vierge et la Vénus, ça fait pas la même chose. Bon, on se reprend. Alors, donc je veux montrer qu'il sert souvent de décor de roches, très curieuses d'ailleurs, mais paraît-il très reconnaissables. Mais enfin, la forme par elle-même est un peu baroque, disons, hein. Et il se pose des questions, alors j'en étais parti du déluge, d'Aristote, etc. Pourquoi les os des grands poissons et les huîtres coraux et autres coquilles escargots de mer se trouvent sur les hautes cimes des montagnes bordant la mer, tout comme dans les profondeurs marines? D'ailleurs, les anciens s'étaient déjà posé la question. Hein. Comment expliquer la présence de mer ancienne au sommet des montagnes? Comment expliquer que les plaines se sont transformées en montagnes? Alors, Léonard va escalader des montagnes, il aimait bien, il a aimé un peu l'alpinisme, il est monté au Montebo, c'est dans le massif du Mont Rose, c'est 2500 mètres d'altitude, un peu plus d'ailleurs, et il va donc écrire ceci: de la sottise et de la simplicité de ceux qui s'imaginent que ces animaux furent portés par le déluge en ces lieux éloignés de la mer. Une autre secte d'ignares affirme que la nature ou les cieux les avaient créés en ces lieux par un flux céleste. comme si l'on n'y trouvait pas des arêtes de poissons qui ont mis longtemps à grandir. Comme si l'on ne pouvait supputer, après les écorces des coques et des escargots, le nombre des mois ou des années de leur vie. Tout de même que sur les cornes des taureaux et sur les ramifications des plantes. Donc il a bien compris que les traces sur les coquilles montrent l'âge. Hein. On n'en parle pas tellement avant d'après ce que j'ai pu lire. Je continue, ou il continue. Pourquoi trouverait-on tant de débris et de coquilles entières entre les diverses couches de pierre si auparavant celle qui était sur le rivage n'avait été recouverte d'une terre vomie par la mer et ensuite pétrifiée? Si c'était le déluge qui les avait transportées de la mer en ces endroits, tu découvrirais les coquilles au bord d'une seule couche, pierreuse, et non de quantité d'hôtes qui permettent de dénombrer tous les hivers, des années où la mer multipliait les couches de sable et de vases venues des fleuves voisins et qu'elle dispersait sur ses rivages. Si tu dis qu'il a fallu plusieurs déluges pour produire ces sédiments, coquilles et fossiles, tu devras aussi prétendre qu'un tel déluge se produisait chaque année. Donc on est sur quelque chose d'assez virulent de la part de Léonard. On verra que sur d'autres choses, il avait un caractère assez entier. Une conclusion sur cette partie, la géologie, je ne vais pas plus loin. Je la reprends dans l'Encyclopédie Universalis, ça m'a paru vraiment intéressante. Vers 1500, Léonard de Vinci confie à ses carnets manuscrits des observations et des idées d'une stupéfiante modernité sur la sédimentation, la fossilisation, etc. Il réfute avec une ironie mordante l'explication des fossiles par le déluge devenu courante et par la génération spontanée qui allait prendre un grand poids. Peu enclin aux théories, c'est un homme de terrain, un observateur d'une extraordinaire lucidité, 150 ans avant Sténon, le vrai premier géologue. Alors, et une chose dont je n'ai pas prévu de parler, je vais en dire quand même une ou deux mots. Il a bien compris le problème des ondes à travers les pierres qui sont jetées dans l'eau, et même à travers certaines vibrations, il passe une vibration pour la lumière. Donc, on peut voir qu'il entrevoit ce qui sera vu bien plus tard à travers les ondes. Alors, néanmoins, sur des choses qui sont tout aussi d'ailleurs complexes, mais qu'on connaît. Il dit, si tu places un verre rempli d'eau sur le rebord de la fenêtre de manière que les rayons du soleil le frappent du côté opposé, tu vois les couleurs dont j'ai parlé se former dans l'impression faite par les rayons solaires qui ont pénétré le verre. Rayons qui s'éteignent et se ternissent sur le sol dans un endroit sombre, au pied d'une fenêtre, parce que l'œil ne sert à rien. Ce pourquoi nous pouvons dire avec certitude, ces couleurs n'ont rien à voir avec l'œil. Il veut dire que c'est cette décomposition par un prisme, décomposition de la lumière en couleurs fondamentales, comme on dit aujourd'hui en optique, c'est pas l'œil, c'est une réalité qui se produit. On a vu cette irisation se produire pas mal de fois. Lui, il le voit très tôt et il comprend à peu près ce qu'est le mécanisme qui est derrière tout cela. Dans un domaine proche, c'est pour ça que j'avais mis cette Sainte Anne, c'est la version bien nettoyée là qu'on a au Louvre et qui est tout à fait admirable. Alors, il a parlé aussi du bleu du ciel. Alors, lors de ses escalades, il remarque la profondeur du bleu du ciel en altitude. Il semble qu'au cours de cette longue ascension, il se pose la sempiternelle question de l'origine du bleu du ciel pour trouver la bonne réponse. Et avec son intuition, il dit « L'azur que présente l'atmosphère n'est pas sa couleur propre, mais il est produit par l'humidité qui s'est évaporée en minuscules atomes imperceptibles. L'humidité, laquelle est frappée par les rayons du soleil qui la rendent lumineuse sous l'obscurité des immenses ténèbres de la région du feu, la recouvrant comme d'un couvercle. Et verra cela comme je l'ai vu, quiconque montera sur le mont Rose. » Donc là, on a une explication qu'on retrouve aujourd'hui, l'explication moderne. C'est Rayleigh qui l'a trouvée 4 siècles plus tard. C'est la loi de Rayleigh-Jeans, où la répartition spectrale, la lumière solaire est dispersée par les molécules de l'atmosphère, ce qu'il appelle les minuscules atomes imperceptibles, de sorte que le bleu est davantage absorbé que les autres fréquences et irradie dans toutes les directions, partout dans le ciel. Ainsi, de quelque manière qu'on le regarde, on voit davantage de lumière bleue diffusée que toute autre couleur. Alors donc on a une description remarquablement juste, il en fera dans beaucoup d'éléments. Bien sûr, je ne vais pas toutes les passer en revue. Je reviens à cette Sainte-Anne, ce bleu grisé. Bon, les couleurs ne sont pas forcément bien rendues. Alors, on va passer à l'anatomie. Alors là, les qualités de dessin de Léonore éclatent littéralement. À gauche des écorchés, à droite des coupes crâniennes. Alors, les sources proviennent des collections royales de Windsor, en Angleterre. Il y a 228 planches de textes et de dessins. On est dans une période à la Renaissance où, après la pudibonderie, disons, du Moyen-Âge, on arrive dans un monde sans tabou. C'est le temps des danses macabres et des tableaux mythologiques avec déesses nues. L'intérêt pour le corps humain est patent. Le nu antique refait surface. La xylographie médiévale est remplacée par la gravure moderne. C'est donc le temps de la Renaissance anatomique, où les textes des livres deviendront bientôt les commentaires des planches. Ce sera le cas chez Léonard, on le voit à nouveau ici, on a tous les endroits des écrits qui éclairent les dessins. On a un autre exemple plus tard, c'est l'encyclopédie, où les planches sont le principal, disons, de ces ouvrages tout à fait extraordinaires. C'est avec lui donc que naît ce système de rendre le dessin dominant dans l'explication. Alors il est vrai qu'il a réellement une qualité exceptionnelle pour tous ses dessins. Alors, l'anatomie est le domaine, à l'exception de la peinture bien sûr, où les apports de Léonard ont été les plus féconds. Il a compris et dessiné le corps avec une rigueur scientifique et une précision inconnue à son époque. Le goût pour l'anatomie de Léonard date au moins de la Bottega d'Andrea de Verrocchio, donc c'est la période 1466 à peu près, 1477, où pendant une dizaine d'années, il apprend son métier, et après il deviendra donc peintre. Et évidemment, les éléments d'anatomie doivent compter beaucoup dans cet apprentissage. Alors, le premier tableau où on va voir une perception de l'anatomie, c'est son Saint Jérôme, qui est peint vers 1482. C'est une œuvre inachevée, comme on le voit. Donc il y a tout un travail sur le corps, sur ce bras, le buste. Il regarde ailleurs que le bras qui a l'air d'effectuer quelque chose tout de même. Et en bas, on voit la ligne du lion, qui est tout à fait extraordinaire aussi. À nouveau, derrière des rochers, comme très très souvent. Alors, il paraît bien triste ce Saint Jérôme. Une des biographes, Liena Bortolon, dans cette biographie donc de 1967, une américaine je crois, associe ce tableau à une période difficile de la vie de Léonard. Les signes de la mélancolie peuvent se lire dans son journal qui contient cette phrase. Je pensais que j'apprenais à vivre, j'apprenais seulement à mourir. Vous voyez l'ambiance. À cette époque, je reviens à des dessins, trois noms reflètent le savoir en matière de médecine. Le grec Hippocrate de Kos, l'homme des règles éthiques, du serment d'Hippocrate. Il prônait une vie simple et la capacité du corps à se soigner lui-même. Léonard, quoique non médecin, semble un peu sur la même longueur d'onde si l'on lit cette phrase. Efforce-toi de te préserver en bonne santé, ce à quoi tu parviendras d'autant mieux que tu te garderas des médecins. Alors j'ai vu un géologue dans la salle, mais j'ai vu aussi un médecin. Désolé Robert de dire de pareilles horreurs. Le second, après Hippocrate, bon, c'est Galien, qui est considéré comme le père de la pharmacie et qui a eu une influence durable sur la médecine chrétienne, juive et musulmane aussi, durant tout le Moyen-Âge, et Avicenne, philosophe persan, médecin et scientifique, autour de l'an 1000, dont le traité qui s'appelait le Canon de la médecine, qui était moins impressionnant, moins énorme que les travaux de Galien, était très employé, j'ai lu, dans les universités médiévales. Et Léonard en possédait une version. Il avait une assez riche bibliothèque pour un homme sans lettres, ce Léonard. Alors, c'est des livres tout ça. Il les lit, Léonard, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais son idée est toujours de confronter le réel aux autorités, aux livres. Et c'est ce qu'il va faire dans l'anatomie, et ça ne va pas être facile. On estime qu'il a disséqué entre 20 et 30 corps. Il a eu une autorisation papale qui lui a été retirée en 1516. Il l'a eu à partir de 1502, si mes souvenirs sont exacts. Alors il commence à l'hôpital Santa Maria Novella à Florence, puis il ira à Milan, puis à Pavie avec le médecin Marcantonio della Torre. Et puis ce médecin va mourir et donc il perdra son appui. L'Église va lui retirer, comme je viens de le dire, cette pratique, et il note dans ses carnets « Un malveillant m'a gêné pour mes travaux d'anatomie en me diffamant auprès du pape et aussi à l'hôpital. » Curieuse phrase aussi, mais qui montre la fin de ses possibilités. Sachez aussi qu'il travaillait, et pas que lui, sur les ossements des cimetières, hein, sur les os. On a des exemples ici, les os sont plutôt récupérés dans les cimetières que à la suite de la dissection. Alors, imaginez disséquer un corps à cette époque. Les conditions de travail, pourrait-on dire, étaient particulièrement détestables. Le réfrigérateur n'existait évidemment pas. Donc on avait des corps en décomposition. Et donc ça a été quelque chose d'extrêmement pénible. Ceux qui étaient des professeurs d'anatomie, qui existaient d'ailleurs, un peu avant d'ailleurs aussi, eux utilisaient un barbier qui faisait la dissection et eux ne touchaient jamais au corps. Pour Léonard, il s'est confronté à la chair. Alors, une planche sur les os du bras. Voici une planche sur la main. Alors, celle-là, j'ai trouvé intéressante et je vais essayer de vous en montrer l'intérêt, de voir la diversité de ce qu'il fait sur ce travail. Alors, premier travail, ici, on a les muscles, les nerfs et les tendons fléchisseurs qui sont sur cette représentation. À droite, le tendon ici, qui est là, sur ce doigt, qui permet de le plier. Un peu plus loin, on va trouver des muscles, mais aussi les poulies annulaires qui retiennent les tendons. Ici, tout cela apparaît. Hein. On a encore un travail. Ici, il montre l'action d'écarter les doigts. Plus loin, il n'y a plus les éléments tendons, chair, etc., muscles, c'est le squelette de la main qui apparaît. Ici, ce sont les muscles de la paume qui apparaissent, et on les voit encore ici avec des éléments de la même partie du corps. Ici, on a les éléments de la main permettant de faire un ciseau entre le pouce et l'index. Et enfin, en bas, c'est un doigt qui se plie. Donc on a tout un travail tout à fait extraordinaire à travers ces différents dessins. J'ai dit 228 planches, j'ai un épais livre que j'ai récupéré qui est 1961, où il y a un travail fait par les médecins là-dessus. Bon, c'est une œuvre tout à fait énorme, et en qualité de dessin, en idée, je dirais qu'il y a la qualité, bien sûr, son coup de crayon, disons, mais il y a aussi des idées sans arrêt, et on les voit bien apparaître ici, où on a vraiment différentes vues de la main qui vont dans un approfondissement tout à fait extraordinaire. Je crois que... Oui, alors ici on a les crânes, c'est aussi intéressant. Avec ces coupes qui sont faites... Je montre là, mais c'est là qu'il faut montrer, vous voyez. Et ici, tout un travail. C'est tout à fait nouveau, personne ne faisait ça. Et bon, il y a une beauté plastique et il y a un extraordinaire travail d'innovation dans ce type de dessin. Alors, j'ai demandé à ma femme de lire. Tu n'as pas perdu le texte. Alors, c'est au dos de cette page-là qu'on a trouvé un texte de Léonard qui parle de la tête, du visage, en liaison avec ses dessins du crâne. Tu vois, tu veux là ?
C'est pour illustration ?
Non, tu lis. Non, mais l'illustration, non, l'illustration est là, mais c'est pas ça. C'est autre chose qu'il écrit à un autre moment. C'est suffisant ?
Juste avancer. Ça va.
Oh là là, ça a tout coupé. Bon, on va remettre pendant ce temps-là. C'est pas grave. Lis le texte.
Quel est le nerf qui détermine le mouvement des yeux et fait que l'on entraîne l'autre ? De la fermeture des paupières. Ben, ça veut dire au sujet de la fermeture des paupières.
Non, il a écrit ça, on ne sait pas au sujet de quoi, on en parlera, mais...
Du soulèvement des sourcils.
Plus fort.
De l'abaissement des sourcils. De la fermeture des yeux. De l'ouverture des yeux. Du retroussement des narines. Du desserrement des lèvres quand les dents sont serrées. De la moue. Du rire. De l'étonnement. Puis, soudain, on ne s'étonnera pas de ce que le domaine d'exploration s'élargisse, et après les mécanismes musculaires que déclenche le rire ou l'étonnement, il passe sans transition à d'autres préoccupations. Applique-toi à décrire le tout commencement de l'homme, quand il se crée dans la matrice. Et pourquoi un enfant de 8 mois ne vit point ? Ce qu'est l'éternuement, ce qu'est le bâillement, au mal, spasme, paralysie, du tremblement que cause le froid, transpiration, lassitude, faim, sommeil, soif, luxure. Il aborde ensuite les systèmes nerveux et musculaires, du nerf qui détermine le mouvement depuis l'épaule jusqu'au coude, du nerf qui produit le mouvement de la cuisse.
Merci. Donc c'est tout à fait étonnant le champ de recherche que Léonard développe pour ce sujet. On peut croire qu'il fait ça pour dessiner, pour améliorer sa pratique de peintre. Non, il va beaucoup plus loin, il part dans des... Un peu comme quand on est sur un ordinateur... qu'on cherche quelque chose, que ça n'arrête plus. Sauf que lui, il emploie une méthode rigoureuse. C'est tout à fait étonnant. Alors, cet ensemble de dessins anatomiques traduit déjà la volonté de comprendre tous les phénomènes objectifs qui constituent la pierre d'achoppement à laquelle se heurtera Léonard au cours de ses investigations scientifiques. Toute chose doit être réexaminée, explicitée, et chaque sujet ouvre une multitude de voies à explorer dans d'autres domaines. Il ne s'arrête pas à des descriptions même analytiques. Il veut percer les secrets de ce qu'il appelle l'âme végétative, c'est-à-dire les fonctions vitales, ambulation, croissance, digestion, reproduction, etc., dues à la circulation des esprits fluides, le sang, le lymphe, etc. Il veut découvrir, comme il dit, le sens commun qui, selon Aristote, émanant de l'âme, et comment nerfs et muscles, quel programme. Alors, cette dissection est portée à une dimension dont on a peu idée. Je crois qu'il faut regarder les plans. Je ne peux pas en mettre 50, ça n'aurait pas grand sens. On les trouve dans pas mal d'endroits, sur le web en particulier. Une splendeur graphique, une bonne qualité au niveau de la recherche. Il y a des choses où il va faire avancer la recherche, pas sur toutes bien sûr. Il a disséqué aussi pas mal d'animaux. C'était le problème de Galien, qui avait surtout disséqué des animaux, Galien donc dans l'Antiquité. Et donc il y a de grosses erreurs. Par exemple, lui, il va s'apercevoir qu'il y a 4 cavités dans le cœur, alors qu'à cette époque, on est persuadé qu'il y en a encore 2. Et celui qui sera le grand anatomiste, André Vézal, ce ne sont pas des dessins de Léonard, bien sûr, et ça se voit d'ailleurs, va continuer à dire qu'il n'y a que 2 cavités dans le cœur, par exemple. Il va aller assez loin aussi par rapport au cœur, donc les 4 cavités, mais il va essayer de savoir si le sang ne revient pas à nouveau dans le cœur, ce dont personne ne parlait auparavant. Il a donc une intuition sur la circulation sanguine qui ne sera découverte qu'en 1628 par William Harvey. On peut conclure à nouveau sur l'importance de l'illustration et qu'il ne va pas cesser de croire. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur l'anatomie. Le livre de Vézal que j'avais mis ici. Donc on est vers 1540. Le mouvement perpétuel, c'est une recherche qu'on rencontre dans tout le Moyen-Âge. Et qui continue aujourd'hui. Hein, je veux dire, c'est pas, si vous regardez sur Internet mouvement perpétuel, vous ne tombez pas sur Léonard. Hein, vous tombez sur un monde de farfelus tout à fait extraordinaire. C'est même qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à ça et qui pensent que ça peut marcher, c'est fabuleux. Bon, Léonard, lui, il va s'y atteler, il va même essayer de le faire. Alors voilà, avec son système, pour entretenir, parce que le problème du mouvement perpétuel, c'est qu'il y a des frottements et que ça s'arrête. Hein, en gros, schématiquement, c'est ça. Et il va donc essayer, alors on lance quelque chose, et puis à un moment donné, comme la roue dans une fête foraine, ça finit par s'arrêter, les autres aussi. Hein. Et lui, il met des masselottes qui, au moment d'être lancées, donc vont entretenir, effectivement. Mais il y a un moment ou un autre où ça va s'arrêter. Et il dit, quel que soit le poids rattaché à la roue, ce poids étant la cause du mouvement de la roue, celle qui l'entraîne, hein, le centre de ce poids s'immobilisera indiscutablement sous le centre de son pôle. Et aucun instrument créé par l'esprit humain ne pourra éviter un tel effet. Ça, c'est les dessins retrouvés dans le codex de Madrid vers 1970, donc on a beaucoup d'éléments et c'est tout à fait intéressant. Il professe finalement à un moment, réellement il écrit ici, l'impossibilité du mouvement perpétuel, et il y a cette apostrophe célèbre, « Ô spéculateur du mouvement perpétuel, combien de mécanismes compliqués avez-vous créés pour cette recherche ? Associez-vous donc aux chercheurs d'or. » Alors qui sont les chercheurs d'or ? Mais c'est les alchimistes, hein, qui voulaient transmuer de vils métaux en or. Ce qui est étonnant, c'est que Léonore rejette la magie, l'astrologie et toutes les formes de superstition à cette époque. L'essentiel des penseurs de cette époque y croit fermement. Il n'y a pas qu'au Moyen-Âge que c'est comme ça. À cette époque, des pics de la Mirambole ou Ficin, vont croire réellement au phénomène magique. Si on réfléchit un peu, Léonard, il n'a pas eu tort de penser que pour s'approprier les secrets de l'univers, mieux valait s'aventurer vers la connaissance de ces mécanismes, tâches stimulantes et infinies, plutôt que d'utiliser d'obscures pratiques magiques. Durant cette présentation, j'ai fait des impasses sur de très nombreux aspects des travaux scientifiques de Léonard. Bon, c'est des fautes de temps, hein, c'est clair que... C'est pas évident. Dans cette durée, c'est faute de compétences. Il y a des domaines où c'est délicat de comprendre. Il n'y a pas que Léonard. Il y a le moment où on est le développement des sciences qui pose de vrais problèmes. C'est faute de pouvoir aussi le traduire. Je vois la théorie de l'impétus, par exemple, qui était vraiment la grande théorie pour le mouvement d'un objet. On associe l'impétus à ça. C'est ça qui explique finalement que le boulet de canon ou autre chose, n'importe quoi qu'on lance, continue dans sa trajectoire. Puis quand il n'en a plus, l'impétus, paf, ça tombe. Alors que ce n'est pas du tout la forme d'une trajectoire, mais on en était là. Léonard va montrer que cet impétus qu'on disait associé à l'air qui poussait finalement le boulet, eh bien ça marche aussi en dehors de l'air. Il va lancer des projectiles qui vont aller dans l'eau et ça continue. Donc il montre admirablement que c'est une théorie qui ne tient pas la route. Elle va quand même durer encore pendant un bon siècle. Revenons sur ces carnets aussi. J'arrive à la conclusion, tout ça. Ces carnets qui, à la fin de sa vie, ressemblaient à une encyclopédie, finalement, vu le nombre de choses qu'il a écrit là-dedans. Une encyclopédie, malheureusement, dans le désordre. En préambule à ses carnets, il écrit lui-même « Ceci sera un recueil sans ordre, fait de nombreux feuillets que j'ai copiés, espérant les classer ultérieurement, chacun à sa place, selon le sujet traité. » Il va essayer d'ailleurs, à partir de 1510, il meurt en 19, il essaie de trier, il rassemble des tas de choses, mais il n'y arrive pas. Il y a tellement de choses là-dedans. Alors, il n'y arrive pas et il lègue à Francesco Melzi, manuscrit, carnet de dessin, croquis. Celui-ci en extraira, en faisant recopier, le traité de peinture, publié plus tard. Réellement, en France, on voit une arrivée en 1651, une version bilingue franco-italienne. Le reste sera vendu, dispersé. Et aujourd'hui, un peu plus de la moitié de ces textes est connu. Mais comme on l'a retrouvé il y a moins de 30 ans, on peut encore espérer en retrouver. On ne retrouvera pas tout. Le problème de tout cela, c'est qu'il n'a rien publié à l'exception de ce qu'il a fait avec, en mathématiques, donc sur les proportions qu'on a vues tout à l'heure. Il n'y a rien d'imprimé, par exemple. C'est assez curieux. Alors, c'est très dommage par rapport aux sciences, parce que les sciences... c'est pas comme la peinture, je veux dire, Léonard n'abolit pas le peintre de Lascaux, hein, et Picasso va pas abolir Léonard. Mais en science et en technique, c'est comme ça. Quand il y a du nouveau, peu à peu, ça reobsolète ce qu'il y a en dessous. N'oublions pas que quand on demande à Newton comment il a trouvé tout ça, il dit c'est parce que j'étais sur les épaules de géants. Hein, il y a du monde avant. Et pour les artistes aussi, je veux dire, mais il n'y a pas l'obsolescence de ce qui est en place. Alors, les scientifiques ne savent pas ce qu'a fait Léonard, finalement. On le découvre peu à peu. On publie ses carnets, sans doute à partir du 19e réellement, si on accepte le traité de la peinture. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est sa méthode. Plus que ses découvertes, il y a des découvertes, mais comme elles ne sont pas publiées, ça ne sert pas à grand-chose. On peut quand même voir que dans sa méthode, il tranche par rapport au passé. La méthode scientifique, qui est un mode d'acquisition de connaissances par rapport à des phénomènes naturels. On observe un phénomène, on note les informations, on propose un modèle qui relie entre elles les données recueillies, les données sont formulées en langage mathématique si possible, on vérifie le modèle, si tout va, ça devient une théorie, et la communauté scientifique est chargée de vérifier tout ça. Léonard a agit dans le cadre de cette méthode. Mais la communauté scientifique n'existe pas, bien sûr, à cette époque. Et de toute façon, il ne publie pas. Avec lui, fait irruption l'idée de mathématisation de la nature. Il écrit « S'il faut en croire les aristotéliciens, est mécanique la science qui naît de l'expérience. Scientifique, celle qui naît et finit dans l'esprit. Mais il me paraît à moi que ces sciences sont vaines et pleines d'erreurs. Qui ne sont pas nés de l'expérience, mère de toute certitude, et qui ne se terminent pas par une expérience définie. La science de la mécanique est de toutes la plus noble et la plus utile. La mécanique est le paradis des sciences mathématiques, car avec elle, on en vient aux fruits des mathématiques. Il pense donc que le recours aux mathématiques est la garantie de la rationalité, et l'unique moyen de s'assurer des principes stables dans les domaines auxquels il faut toujours revenir. Alors que ses prédécesseurs grecs se passaient de l'expérimentation, et que les humanistes reprennent les textes antiques sans les mettre en doute, Léonard insiste sur le lien avec l'expérience. L'appréhension directe du phénomène naturel, de l'importance cruciale de l'observation méthodique. C'est une remise en cause de la philosophie de la nature de son époque et elle est radicale. Il note plusieurs fois la nécessité de répéter et diversifier les expériences. Avant de faire de cet exemple une règle générale, essaie-le deux ou trois fois et regarde si les effets produisent les mêmes si les essais produisent les mêmes effets. Et cette expérience se fait en plusieurs fois, pour que quelques accidents n'en empêchent la vérification ni la fausse. Donc, avec Léonard, en matière de science, on assiste à la naissance d'une véritable méthode scientifique, allant de l'observation à la théorie, en passant par l'hypothèse et l'expérience. Galilée, Bacon et Descartes n'arriveront qu'un siècle plus tard, donc Léonard reste un miracle. Merci.
Martin, ça marche bien.
Oui. Ça, je pense que vous avez beaucoup de questions. Parce que tout ça c'est très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à éclairer. C'est notre ami Prodigliani, ce sera un plaisir de vous mettre des fois sur les dix.
On essaiera.
Est-ce que vous avez des questions qui pourraient.
Voilà. Jean-Louis. Donne-lui le micro.
Une réponse concernant la composition de la scène. Cette composition, elle a été utilisée pour la composition des peintres, hein, pour la composition des tableaux. Alors, le principe, je ne sais pas si tu peux la montrer.
Oui, je la cherche.
Dès que je vais c'est que l'on parle d'un carré.
Elle est là.
C'est que l'on parle d'un carré. Hein. Je ne sais pas si...
Ça ne va pas certainement marcher.
Normalement, pas mal.
Ça va.
Ça suffira.
Ça devrait aller.
Oui. Il faudrait que je...
Donne-lui le pointeur. Alors, Jean-Louis.
Cette composition de ligne, tu l'as trouvée parce que ce que j'avais vu dans certains endroits, c'est que l'on part d'un carré. Alors, le carré, il faut le redéfinir, par exemple celui-là. Ouais. Et on prend normalement la diagonale du carré et on rabat la diagonale ici. Hein, ce qui définit un rectangle. Hein, on prend la diagonale, on rabat et ici on trouve un point à partir duquel on construit un rectangle. Et ensuite, à partir de cette ligne, on reprend un deuxième carré. Alors, je ne sais pas si cette composition correspond exactement parce que c'est. Je ne sais pas où tu as pris les trucs, mais. C'est un peu le principe. Et ce système d'emboîtement peut se reproduire, peut se développer.
Ouais.
C'est la
composition. Top. On va pas. Bon, on verra. On va pas essayer là. Je vais prendre un micro. Oui, j'avoue. J'ai retracé fidèlement, puis j'ai essayé de comprendre, mais je n'avais pas les éléments. Il faudrait qu'on essaie d'approfondir la question.
Oui, c'est un sujet que j'avais eu. Enfin, c'est un élément de construction que j'ai trouvé d'ailleurs, mais j'en avais parlé à Roger Toulouse quand j'étais à l'école normale. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne sur cette grille que tu présentes, mais on peut imaginer en partant de ce carré-là, par exemple, hein, on prend la diagonale, on rabat, on a un point à partir duquel on peut reconstruire un carré. Là, ça ne semble pas comme une idée, mais dans cette construction, ensuite, le peintre installe les éléments principaux au point de convergence, au point de croisement, parce que à l'intérieur d'un même carré, on peut tracer des diagonales et on va définir des points. Dans chaque tableau, il y a une composition secrète qui, enfin secrète entre guillemets, génère la position des personnages, les têtes, les mains, les mouvements des bras, etc. Voilà. Mais tout ça s'inscrit dans une construction générale qui est le nombre d'heures. Alors, pourquoi le nombre d'heures ? Il semblerait quand même que lorsque l'on rabat cette diagonale du carré, cela définit des proportions correspondant au nombre d'or. Voilà. Enfin, c'est l'idée générale. Mais je ne peux pas te dire si ça correspond exactement ici. Hein. Parce que j'ai pas le document.
On pourrait aussi penser à ça ici, mais si c'est un 6.
Non,
c'est plus compliqué que je l'imagine.
C'est de rabattre la diagonale qui définit un rectangle à partir duquel on peut reconstruire un carré, etc. Et à l'intérieur de cet ensemble, on peut tracer des lignes de convergence entre les différents points pour définir l'emplacement des personnages.
Ok, j'ai gardé parce que j'avais lu ça, mais je n'étais pas convaincu. Alors, il faudrait peut-être qu'on approfondisse la question avec toi. Autre chose ?
Une autre conférence.
Oui.
Claude. Bon, alors, en tant que géologue, évidemment, j'ai été fasciné, et puis fasciné par l'ensemble de tout ce que tu nous as fait découvrir. J'avoue que je ne connaissais pas les observations de Léonard au Mont Rose, et c'est vraiment stupéfiant de voir avec quel esprit d'observation il analyse les fossiles et l'explication qu'il en donne, qui est toujours l'explication actuelle. Par rapport aux explications de cette croissance dans les roches, qui sont ce qu'on appelle des artefacts, en fait. Problème qui se pose d'ailleurs toujours actuellement lorsqu'on cherche dans des sortes aux origines de la vie, parce que là on ne sait pas si on observe quelque chose qui est fortuit ou quelque chose qui est vraiment la trace d'un organisme. Mais je suis vraiment et je verrai d'ailleurs d'un œil différent les tableaux dont j'avoue que les roches n'avaient pas vraiment retenu suffisamment mon attention, je le reconnais. Il faudra que je les revoie maintenant autrement.
J'ai trouvé un article par un géologue qui dure au moins 15 pages, qui est très costaud, enfin qui est plus costaud que je puisse l'absorber, disons. Mais je le mettrai sur la liste de la Corfi, donc pour que tout le monde en profite et que vous puissiez lire. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce que j'ai pu lire, ça c'est clair. J'ai extrait quelques éléments.
Et bon, tu parlais de l'observation. Bon, actuellement, on a quelque chose qui peut rappeler, en fait, avec l'ordinateur et toutes les compilations qu'on fait, on fait des compilations sur des données, mais on est obligé d'aller revoir sur le terrain des choses pour alimenter l'ordinateur, sinon on tourne en rond. Donc on est toujours dans cette démarche.
Ah. Oui.
Autre question ?
Question ou apport ?
Monsieur.
Oui, là où je m'interroge, c'est par rapport au nombre d'or. Parce que c'est quand même une notion, c'est algébrique, et c'est quelque chose de précis. Or, là, je ne sais pas, il m'a semblé quand même, que, dans ce que vous disiez, dans les choses que vous avez citées, c'est des valeurs approchées. À un moment donné, vous avez sorti un tableau où on voit qu'il y a des écarts par rapport à phi. Voilà, il y a ça. Et puis, par rapport aussi au canon, dans le dessin. À certains moments, c'est la tête qui servait. La hauteur de la tête, ça servait de canon. Donc, on a des hommes à 7 têtes, 8 têtes ou 9 têtes. Et c'est vrai qu'il y a des différences entre, par exemple, Dürer. Chez Dürer, il y a différents personnages. Et c'est pas le même nombre de têtes à chaque fois.
Mais c'est différent du nombre d'or. Il y a trois choses qui se superposent. il y a le nombre d'heures pour la construction de l'ensemble du tableau, il y a les règles de la perspective qui s'intègrent là-dedans, et puis les proportions humaines qui effectivement varient en fonction de l'époque, l'époque matérielle qui a plus de tête dans le corps de l'homme, etc. C'est un élément un peu différent qui s'associe.
Pardon le micro, Jean-Michel.
Vous voulez redire ce
que... Oui, sur Léonard, c'est incontestablement, il essaie de mettre en place un canon, c'est sûr, pour lui. Et maintenant, il est clair aussi qu'on est
plus dans le milieu. En fonction des époques.
Voilà, bien sûr.
À l'époque maniériste, il y avait plus de têtes dans le corps qu'à l'époque classique, etc. Mais ce sont des choses un peu indépendantes qui s'associent, qui se complètent. Encore une fois, entre les proportions humaines, les règles qui concernent la construction de l'ensemble du tableau, de la composition du tableau qui relève du nombre d'or, et les règles de la perspective qui sont encore une fois des choses qui s'intègrent à tout cela.
Oui. C'est pas la même chose, bien clair. Alors c'était finalement donc c'était que les nombres pouvaient être variables sur le nombre d'or. Oui, c'est un nombre irrationnel, donc il n'y a pas de... On est forcé de le mettre en approché, quelle que soit la forme qu'on donne, sauf si on l'écrit en équation. À ce moment-là, là, on n'a pas de problème. Où est-ce que j'ai foutu ce... J'ai parlé de ça. Et ici, je ne sais pas si on la voit, ici, là, l'équation, la vraie valeur, elle est là. Hein. C'est 1 plus racine de 5 sur 2, c'est phi. Phi, c'est un nombre d'or. Qu'est-ce que je raconte ? C'est le nombre d'or, mais je veux dire, c'est un nombre irrationnel comme pi. On est toujours sur une valeur approchée. Et la manière dont on l'a utilisé au XXe siècle, par exemple, avec Le Corbusier, si on fait une pièce qui répond au nombre d'or, admettons qu'elle ait une longueur de 16 mètres, 10 de large, et je mets en approximation, et 6 de haut, si on la fait très précisément, et si on rajoute du papier peint, on fout tout en l'air. Donc si on veut, on est sur des choses qui sont extrêmement... plus on va chercher des chiffres éloignés, plus ça devient compliqué. Donc c'est quelque chose qui, par rapport au réel, ne peut pas être pris avec un nombre de décimales insensé. Hein. C'est les proportions, bien sûr. Bien sûr, mais je vous dis, cette proportion, on va aussi dire qu'elle sert pour avoir une acoustique extraordinaire, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites là-dessus. Bon, faut relativiser. On est dans la magie des nombres. Elle est valable pour tout le monde, sauf pour les gens qui s'intéressent vraiment aux mathématiques. Je veux dire, il n'y a pas de magie dans un chiffre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais il y en a qui ont une renommée. C'est clair que pi et phi, c'est deux nombres qui ont une histoire extraordinaire. Je ne sais pas si... Allez-y.
Oui, simplement, à l'époque, ils n'étaient peut-être pas outillés avec l'algèbre pour pouvoir résoudre ce genre de choses. Voilà.
Oui, oui. Oui, ça c'est une certitude qu'en Europe, c'est la géométrie qui est dominante pendant très longtemps. Et on fait des calculs avec des figures géométriques. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est complètement en dehors de ce qu'on peut penser, nous, bien sûr. On n'aurait jamais idée de faire des dessins pour... on dessine pas pour trouver des valeurs numériques, en tout cas. Mais c'est notre culture. C'est pas vrai de toute l'éternité. Il y a d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose ? Pierre.
Pas grand chose, mais enfin, le nombre de Fibonacci, c'est quelque chose qui doit tenter tout le monde, il me semble. Et avec les progrès de l'informatique réalisés qui multiplient à l'infini les capacités de calcul, ça a tenté, il me semble, beaucoup de gens. J'ai encore lu que dernièrement, on est allé sur. Quel décimal s'en arrive au résultat.
Oui, oui, oui.
Je vous parlais de la découverte, c'est une place qui lui est consacrée ouais. Le nombre fait 10 fois sur
cette année. Oui, bien sûr. Oui. C'est des performances, c'est pas des choses qui ont un très grand intérêt. C'est de montrer que ce chiffre est interminable, le fond du problème. Ici, j'en ai enlevé. Hein.
En fait, c'est un génie universel. Et qui fera encore beaucoup parler de lui dans les années et décennies qui viendront.
Oh oui.
Tranquille. Bon.
Bien.
Eh bien, merci, on l'applaudit encore. parce que ton travail a été aussi important. Alors, je vous arrête.